En préambule, pour vous un peu vous parler de cette étude biblique, Pasteur Michel m'avait demandé il y a 6 mois en disant est-ce que tu serais OK pour faire une étude biblique en juin. Je lui ai dit ouh, en juin c'est super, j'ai tout mon temps, etc. Je pourrais étudier. Et puis ensuite il y a eu les différents épisodes, dont le confinement avec le Covid-19. Et il y a 10 jours, il m'a dit bah finalement on va avancer la date, est-ce que c'est OK? Et je lui dis oui. En sachant que j'avais bah, du coup pas du tout, je l'avais mis sous le chapeau, etc., pas du tout préparé, pas du tout étudié, et donc voilà. Et pour dire un peu la vérité, je savais pas ce que Dieu me disait, je savais pas ce que Dieu voulait me dire en ce moment, à moi en général, même hors contexte d'une étude biblique. J'avais du mal à me dire, bah, je sais que le Seigneur est en train de me parler sur tel ou tel sujet. Il y a des fois c'est très facile, et puis d'autres fois pas du tout. Et donc du coup, l'amorce de cette étude, ça a été par rapport à quelque chose. Alors c'est une anecdote, mais pour vous expliquer un peu comment les choses se sont passées, c'est que au début du mois de février, alors j'étais dans un travail que j'aimais beaucoup, où je m'épanouissais assez. J'étais vraiment contente. J'étais contente du travail en général parce qu'il m'intéressait. Et puis du jour au lendemain, par un biais de décision de mon grand manager, je me suis retrouvée à faire une activité que j'aimais beaucoup, à devoir faire une autre activité. Alors je vais pas vous dire quoi, comme ça vous pouvez pas faire de relation, mais en gros, vous imaginez, vous passez du job de vos rêves au job que dans votre vie, jamais, même pas en rêve, même pas en cauchemar, vous voudriez faire. Tellement vous vous sentez ni capable, mais surtout pas envie du tout. Au-delà des capacités, au-delà de ce que ça représente. Et ça a été, j'avoue, ça a été ça a été difficile à avaler. Voilà, ça a été difficile à avaler. Et en fait, mon refuge, ça a été de dire, ok, c'est le Seigneur qui le veut, j'ai la paix, et j'en ai plus parlé à Dieu. Et jusqu'à ce que ça ressorte, parce que le problème, quand on présente pas les choses avec Dieu, quand on vit pas les choses avec Dieu, même si on a un assentiment extérieur, et ben ensuite il se produit des choses dans l'âme. Donc en fait, en gros, cette étude biblique, pourquoi le thème que je vais aborder, c'est quand la vie ne se passe pas comme je veux, et surtout quand j'estime avoir des droits et que mes droits ça sont bafoués. Donc c'est vrai qu'en fonction des situations de notre vie, des circonstances favorables ou défavorables, on peut développer des attitudes qui sont pleines de frustration, ou en tout cas de vivre les choses de façon très émotionnelle. Quand ça va bien, et ben, tout va bien, c'est merveilleux, qu'est-ce que Dieu est bon, les frères et sœurs dans l'église sont merveilleux, j'ai des amis fantastiques, c'est un tel bonheur. Et tout d'un coup, quelque chose se passe et ça va pas du tout. Que fait Dieu? C'est pas possible que Dieu agisse comme ça ou permette ceci ou cela dans ma vie. Et je me mets à peut-être être en colère contre moi, avoir des attentes pas possibles et en vouloir au monde entier, en fait. Ça me fait penser à une de mes collègues qui disait « le Covid est contre moi ». C'est très étonnant de dire ça. Elle le disait avec beaucoup d'humour, en disant que c'était une situation qui cristallisait un peu tout, où elle avait l'impression que le monde entier lui en voulait et que le Covid était contre elle. Hein. Ça concernait pas des milliards d'individus, mais seulement elle. Et donc, en fait, ce syndrome-là, c'est vraiment le syndrome « j'ai droit, je peux prétendre à ». Et on trouve évidemment sa racine au tout début, il y a longtemps, quand notre ancêtre commune à toutes, Ève, a commencé à croire à un mensonge, ou quand le diable lui a dit « il y a un fruit dont tu as besoin, qui est la connaissance du bien et du mal ». Et tout d'un coup, elle a cru à ça, elle a dit « oui, effectivement, j'ai le droit de savoir ». J'ai le droit de savoir, j'ai le droit de connaître le bien, j'ai le droit de connaître le mal, j'ai le droit d'évaluer les choses. Donc, c'est une pensée qui entraîne des émotions, qui souvent sont des émotions assez fortes, assez intenses, et qui peuvent nous entraîner même à vivre une vie en étant chrétienne, en étant croyante, à mener une vie d'émotions et d'émotions contradictoires. Donc, En fait, cette attitude de j'ai des droits, ça montre en fait que plus au fond de nous, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on ne vit pas avec Dieu. Et je vais m'expliquer un peu plus tard pourquoi on peut avoir ce droit, parce que Dieu nous donne les droits d'avoir des droits, ça c'est tout à fait légitime, etc. Sociétalement, évidemment, Dieu est pour le droit, il dit qu'il entend le cri de la veuve, le cri de l'orphelin, il entend, il écoute le cri des gens et des opprimés. Donc je ne parle pas de justice sociale, là. Je parle d'une attitude où je tape du poing sur la table et j'estime que je ne devrais pas avoir à vivre ceci ou cela. Et donc pour illustrer cette attitude, il y a un personnage. Alors d'habitude je parle toujours de femmes dans la Bible puisque c'est une étude biblique pour les femmes, donc je cherche les femmes, mais là j'ai une héroïne qui en fait est un homme. Et je trouve qu'il, cet homme est vraiment une illustration de cette vie-là, de justice propre et de réclamer à ses droits. Et vous le connaissez, je pense, c'est Jonas. Jonas, en ce moment, j'ai lu Jonas plusieurs fois et je me suis régalée de ce livre. Et je vous propose qu'on regarde tout ensemble dans notre Bible, en Jonas chapitre 4 notamment, parce que c'est surtout cela qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais vous demander de lever la main. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est absolument pas familière avec qui est Jonas? Ça vous dit rien du tout? En fait, pour le faire très court, Jonas est un prophète de Dieu, donc c'est un croyant. Et Dieu l'appelle à prêcher à la repentance auprès d'une ville de païens. Donc c'est pas le peuple de Dieu du tout. Ça s'appelle la ville de Ninive. Et Jonas, dès qu'il entend l'appel de Dieu, il fait une chose, il monte dans un bateau et il part à l'opposé. Premièrement, Jonas a décidé que voilà, c'était pas son ministère, c'était pas son appel. Donc, Dieu fait venir une tempête sur le bateau. Jonas se fait jeter à la mer. Dieu envoie un poisson qui avale Jonas pendant 3 jours. Et dans le ventre du poisson, Jonas cite la parole de Dieu, implore Dieu. Et Dieu parle au poisson, le poisson vomit Jonas sur la plage, Jonas va à Ninive, il prêche, et qu'est-ce qui se passe? Toute la ville se repent. Et dans le chapitre 4, on va parler du moment où il y a une discussion un peu serrée entre le Seigneur et Jonas. Et j'aime vraiment beaucoup ce passage. J'avoue, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises et je me vois tellement dans cette attitude. Donc, je vais regarder en Jonas. Donc, Dieu parle des Ninivites et il dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. » Et là, c'est ce qui nous intéresse. « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. » Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarse, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Alors, c'est assez extraordinaire, je vous dis, j'ai éclaté de rire. C'est de voir la réaction de Jonas. Il est appelé par Dieu, il est dans le plan de Dieu. Même quelquefois, il vit une situation que certains d'entre nous on rêverait d'avoir, dans le sens où parfois on est un peu, on veut absolument connaître la volonté de Dieu et même que Dieu nous oblige à faire sa volonté en disant « mais pétard, il faut qu'il me force ». Là, on peut dire que Dieu a été convaincant avec Jonas au point de le faire vomir par un poisson sur la plage. Et donc, Jonas, bon gré, prêche la parole, en disant, attention, encore 40 jours et le jugement va s'abattre. Donc, en fait, il n'aura pas parlé du caractère de l'Éternel, etc. Mais bon, mais ça, il a fait le job. Et là, Jonas en veut à Dieu. Et il en veut à Dieu parce qu'il estime qu'il a le droit de choisir à qui il peut envoyer son message. Et donc, quand il est dit qu'il le prit très mal, En fait, en hébreu, ça veut dire qu'il était fou de rage contre Dieu. Fou de rage contre Dieu. Et ça peut être un peu le cas dans notre vie où Dieu fait quelque chose, on est à son service, on connaît la parole de Dieu, on est, je veux dire, dans une bonne assemblée, tout va bien, puis Dieu nous demande de faire quelque chose et c'est vraiment pas ce que j'attends. C'est pas comme ça que je conçois la vie, c'est pas comme ça que je conçois le service, c'est pas comme ça que je conçois le ministère dans lequel Dieu m'appelle. Et Dieu m'y emmène. Et même les résultats, même si c'est une bénédiction, ça m'énerve, ça me met en fureur contre Dieu. Et en fait, ce que j'aime, c'est déjà que Jonas n'a pas eu peur d'en parler avec Dieu. Et ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est que ça n'effraie pas Dieu. Il est ouvert à cette conversation, on va le voir tout de suite. Jonas est fou furieux contre Dieu. Il dit, mais c'est à cause de ton caractère, tu es bon, etc. Je savais que ça arriverait, que tu allais faire quelque chose. Et ça ne le convient pas. Donc maintenant, fais-moi mourir. Enfin, moi, je trouve ça drôle, quoi. Parce que dans la tête de Jonas, Ninive devait y passer. Ce n'était que justice que ces hommes endurcissent leur cœur à la prédication de la parole de Dieu. Et ce n'était que justice que le jugement de Dieu tombe sur eux. Donc c'est vraiment... une attitude quelquefois, alors peut-être qu'on va pas se mettre nous en fureur et tout, mais il y a peut-être des circonstances et des situations dans notre vie où on se dit, là, ce ne serait que justice que cela arrive. Alors ça peut être contre nous-mêmes hein, d'ailleurs, pas forcément qu'envers les autres, etc. Et en fait, ce que j'aime, c'est que Dieu répond de façon très intéressante. C'est-à-dire qu'il est ouvert à une conversation serrée avec Jonas. Mais tout de suite, il pointe du doigt là où est le problème. Et on voit, c'est l'Éternel au verset 4 qui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et en fait, on peut le traduire complètement quand je vous parlais d'avoir des droits, c'est « Mais de quel droit est-ce que tu te mets en colère ?» Et souvent, je pense que, en tout cas pour moi, c'est le point essentiel. Quand Dieu fait quelque chose, on est dans le plan de Dieu, etc. Mais ça ne tourne pas comme... on imagine que ça devrait l'être et qu'on commence à avoir un peu une discussion franche. On commence la discussion franche et Dieu qui est profond, qui voit le tréfonds de notre âme, il est à la fois prêt et engagé dans la conversation, et il va jusqu'au bout des choses et tout d'un coup il pointe du doigt en disant « Mais de quel droit fais-tu bien de t'irriter ? Est-ce que tu crois que tu peux t'irriter ?» Et fais-tu bien de te mettre en colère ? Et c'est drôle parce que la réaction de Jonas est assez immédiate. Et elle me rappelle ma propre situation. C'est-à-dire que j'entame une conversation avec Dieu. Il me répond et je pars. C'est exactement ce que Jonas là va faire. On le lit. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter ? Verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. Alors là, c'est très drôle parce que je trouve que Jonas est tellement furieux qu'il s'en va loin de Dieu. Il ne répond même pas à Dieu. Il se met à proximité dans la ville. Il se fait une cabane parce qu'il a tellement chaud, il est tellement irrité qu'il essaie de redescendre un peu. Mais il attend. Il attend pour voir si Dieu va quand même être bon, si Dieu va quand même accorder le pardon. Ou est-ce que Dieu, à cause de sa parole, va peut-être se laisser fléchir ? En fait, je ne sais pas tellement quelle était l'attitude de Jonas, mais en fait, il attendait un résultat. Alors, je ne sais pas si c'était un résultat vis-à-vis des Ninivites ou vis-à-vis de lui-même, mais il attend. Il a interrompu sa conversation avec le Seigneur, mais il attend. Peut-être qu'il espère bouder suffisamment longtemps, ou etc. Et c'est... ça, c'est, je pense, un des moments les plus inconfortables dans nos vies avec Dieu quand on boude. On sait que Dieu est Dieu, il n'y a pas de discussion, etc. Il nous a parlé, ça ne nous a pas plu. Et là, maintenant, il nous faut cette espèce de temps pour nous asseoir, peut-être pour encaisser, pour digérer, je ne sais pas, pour voir. Et on voit et on attend ce qui se passe. Et là, au verset 6... L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre à la tête et pour lui ôter son irritation. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Jonas est fou et furieux, il veut pas faire la volonté de Dieu, puis il l'a fait quand même. Et puis ce qu'il craignait exactement arrive, il trouve ça horrible, injuste, il en veut à Dieu, il s'en va et fait sa cabane. Dieu fait pousser un ricin pour lui apporter de l'ombre. Ça, ça m'a beaucoup touchée de voir, mais il nous connaît. D'un côté, il nous parle, sans détour, il nous dit, il y a peut-être un problème là, peut-être que tu te prends pour moi, peut-être que tu crois que tu sais ce qui devrait arriver à Ninive, mais de quel droit? C'est moi qui ai les droits. On boude, on campe sur nos positions, et puis Dieu est quand même là et nous apporte du réconfort, nous apporte ce qu'il nous faut pour nous calmer de notre irritation. Et c'est vraiment une magnifique illustration de la façon dont Dieu agit avec nous. Et ce que j'aime, c'est de voir que Jonas n'était pas content, il était à fond pas content, et puis tout d'un coup, il a un arbre qui lui couvre la tête, et puis alors là, la vie est merveilleuse, tout va très bien, il peut redescendre, tout va mieux. Comme quoi, on peut être tellement fluctuant. Et c'est ce que je vous disais au début, de vivre une vie, on peut être croyant, mettre notre espérance en Dieu, et pourtant être comme ça, en haut, en bas. En haut, en bas. Parce qu'en fait, simplement, c'est je suis en haut quand la vie chrétienne va exactement selon ma pensée et mon concept de ce qu'elle doit être. Alors là, j'estime que tout va bien. Là, j'estime que c'est ok, je peux vivre ma vie, je pense être spirituel, tout va bien. Puis tout d'un coup, quelque chose se passe et c'est pas comme je m'y attendais, c'est pas comme je le comprends et je peux avoir le droit d'essayer de comprendre. Mais c'est pas comme je le comprends, c'est pas comme je le conçois et là, ça va pas du tout. Et on peut passer notre vie en étant comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est comme si on disait, Dieu est bon, Dieu n'est pas bon, Dieu est bon, Dieu n'est pas bon, Dieu est fidèle, j'ai des doutes. Et d'être comme ça. Et là, on continue à lire ce qui se passe, parce que Dieu, bien sûr, utilise cette situation pour enseigner quelque chose à Jacob, parce que lui, il n'abandonne pas, Jonas, peut-être que Jonas lui est parti, mais Dieu est toujours là, il se tient. Il se tient près de Jonas et il veut continuer, il veut approfondir le problème. Encore une fois, Dieu ne se dérobe pas à nos questions, il ne se dérobe pas à notre conversation et on peut tout lui apporter avec la plus grande honnêteté. Maintenant, quelquefois, on commence la conversation, on commence le questionnement et on s'arrête au milieu parce qu'on n'aime pas la réponse. Et là, on voit au verset 8, au lever du soleil, donc le répit de Jonas a duré une journée pour redescendre sous son ricin. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un chaud vent d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Donc une chaleur au point où il en a fait un malaise. Je ne sais pas si c'était une insolation. Et encore une fois, c'est moi qui rajoute encore une fois, il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Réponse de Dieu au verset 9. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel, au verset 10, et l'Éternel dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Et là, l'histoire de Jonas s'arrête là et je ne vais pas du tout... essayer d'y trouver une fin, etc., ni tirer de conclusion. Mais encore une fois, c'est drôle, Dieu revient sur « Fais-tu bien de t'irriter ? » « Fais-tu bien de t'irriter ? » De quel droit tu t'irrites ? Et on peut en parler de façon très générale et dire, acquiescer. Moi, tant que je lis l'histoire de Jonas, je suis pas Jonas, donc ça me concerne pas et je vois très bien ce que le Seigneur veut dire. En revanche, quand la même situation m'arrive à moi, à partir du moment où je crois crois prétendre avoir des droits, c'est là où je commence le même genre d'attitude que Jonas, en fait. Et où peut-être, il y a des fois où ça grince un peu, il y a des dissonances dans ma relation, dans ma communion avec le Seigneur, parce qu'effectivement, c'est une question de perspective, j'ai des besoins qui sont légitimes, j'ai des idées, j'ai une vie. Mais est-ce que ma vie, je la soumets à Christ ? Est-ce que c'est vraiment ma vie que je vis ? Ou est-ce que c'est la vie de Christ que je vis ? Et ça peut être un champ de bataille, en fait. Ça peut être une proie une bataille entre le Seigneur. Est-ce que c'est ma vie ou est-ce que c'est la vie de Christ en moi? Est-ce que c'est mon plan que j'ai envie de voir s'accomplir ou est-ce qu'effectivement je suis devant le Seigneur, c'est ta volonté. Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, mais c'est ta volonté, Seigneur. Parce que je sais une chose, c'est que toi, tu sais mieux que moi. Donc, en fait, c'est vraiment ce thème de est-ce que j'ai dans mon cœur cette notion que c'est ma vie m'appartient, j'ai des droits et la vie, elle a plutôt intérêt d'aller dans le sens que j'ai envie. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment intéressant de lire ce passage. Je vous dis, je me suis tellement reconnue dans Jonas, en particulier vis-à-vis de ce moment de ma vie où tout d'un coup, je passe d'un travail qui me plaît à un autre travail où j'étais vraiment en colère, déçue, amère, en vouloir à toutes les personnes dont je pense que c'est à cause d'elles que ça se passait. Mais oui, c'est parce que peut-être que je croyais que j'avais le droit de choisir mon job. J'ai le droit d'avoir une activité qui m'épanouit, qui me plaît, etc., etc., plutôt que de voir au-delà. Et de réaliser que tant que je m'accroche à mes droits, tant que je m'accroche, je marque-boute, en fait, je rentre dans une forme d'esclavage, ni plus ni moins. Et je commence à m'irriter. Je commence à murmurer, je commence à m'énerver de ce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans ma vie et puis tout d'un coup, il n'y a pas de justice dans le pays. Je vois le méchant prospérer. Et derrière tout ça, c'est que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Plus profondément, les circonstances de ma vie sont là, mais que fait Dieu ? En fait, je me disais, comment on sort de ça? Parce que c'est bien facile à dire, etc. Et je peux dire, ok, Seigneur, tu le veux, c'est ainsi, amen. Et c'est un peu froid, un peu sec, etc. Et je cherchais, en fait, ça m'a fait penser à, en disant, mais qu'est-ce qui peut me faire sortir de cette attitude de j'ai des droits? Je sais que Christ m'a racheté. Je sais qu'il est mon Seigneur, etc. Et tout ça, ce que je dis, on est familier avec ces concepts, mais ça peut tellement vite, en tout cas dans ma propre vie, ça peut tellement vite être des paroles de bouche. Mais quand ça touche au plus profond de mon âme, tout d'un coup, je me rends compte que je suis pas en phase avec même ce que je dis, ou même ce que je sais, même ce que j'ai appris à l'Institut biblique. Et en fait, il y a vraiment ce verset qui retentit fort dans mon cœur, qui est en Philippiens 2:7, à propos de Jésus-Christ, et aussi un encouragement de Paul qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Un autre verset aussi en Pierre, 1 Pierre 5, 6 et 7. Et là, ça nous parle de nos rapports entre tous. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et en fait, je pense que vraiment une des clés pour nous aider à quelque part à avaler certaines pilules de notre vie, certaines circonstances, certaines choses qui nous échappent, qui nous rendent mécontents, mécontents parce que ça va vraiment pas, ça ne rentre pas dans nos concepts et tout, c'est l'humilité. Et l'humilité, ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir. On l'entend souvent. C'est pas la question de je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis pire que tout le monde, je ne peux rien apporter, je ne peux prétendre à rien. Non, l'humilité, là dont il est parlé en grec, je vais pas arriver à dire le mot, c'est tapeino sophrosune, qui signifie humilité et douceur de cœur. Ça nous fait penser à ce que le Seigneur dit de lui-même, je suis doux et humble de cœur. Et en fait, c'est une qualité qui consiste à dire, je sais que je suis un homme, un être humain, je sais que je suis limité, et j'accepte de donner à Dieu, j'accepte de dire que Dieu est plus grand, souverain, qu'il sait mieux les choses que moi. Et j'accepte cela. J'accepte ça avec douceur, avec tranquillité. Et ce que je trouve intéressant dans le verset de 1 Pierre, c'est qu'il nous dit de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Donc ça nous rappelle que Dieu est puissant, qu'il agit, sa main puissante. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de rien faire. Et même s'il fait quelque chose que je ne comprends pas, moi je ne ferai pas comme ça, faisons-lui confiance, parce que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est souverain. Afin qu'il vous élève au temps convenable, mais ensuite il y a la deuxième partie, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et en fait, je crois que c'est la clé qui nous aide à être humbles. C'est pas, je dis, ok, je serre les dents, ok, amen Seigneur, et mon cœur se ferme aussi. Non, c'est une attitude de confiance en fait. Je m'humilie parce que Seigneur, je sais que tu es souverain, je sais que tu es en contrôle, je sais que toute chose concourt à mon bien. Je ne comprends pas, je ne vois pas, ça n'a pas de sens. Je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Mais je te fais confiance, j'ai confiance dans ton caractère. Et c'est difficile de dire cela quand on vit une vie où les circonstances semblent tellement contraires à ce qu'on aime et à ce qu'on est. Je sais que ça a été un petit choc il y a pas longtemps. Je parlais avec Pasteur Michel à propos d'une situation qui vraiment ne me convenait pas. Et à un moment, il m'a dit, mais tu en as besoin. Et vous savez, quand on dit quelque chose comme ça, et ça fait à l'intérieur de vous. D'un côté, ça libère. Et d'un autre côté, c'est dur d'entendre dire que j'ai besoin de circonstances difficiles. Surtout quand j'estime que mes droits sont bafoués. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dur d'accepter ça. Et en fait, la seule façon de l'accepter, c'est de dire, mais Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais, tu permets cette situation, ça ne t'échappe pas. Ça ne t'échappe pas. Tu dis que tu es un Dieu qui est juste, qui est droit, qui est miséricordieux, qui est aimant, tu le sais. Tu dis que toute chose concourt à mon bien, c'est maintenant à moi, tu le dis, c'est un fait. Donc c'est à moi de m'appuyer là-dessus. C'est à moi de te faire confiance maintenant. C'est à moi de te croire. Contrairement à Jonas, je pense que Jonas n'a pas eu c'est pas qu'il n'avait pas foi en Dieu, je crois qu'il savait très bien ce que Dieu voulait, mais il aimait pas son ministère, il aimait pas les gens. Il aimait pas que Dieu soit miséricordieux, lent à la colère, pour les autres. Et pourtant, quand lui, ça n'allait pas dans son sens, il est en train de dire à Dieu, mais je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est un peu, c'est drôle cette espèce d'ambivalence. C'est de pas voir que ça fonctionne en même temps, tout simplement. Et donc je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, mais de se dire, bah Christ sait, il a cette douceur, cette humilité. Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes, pour les croyants, nous sommes nés de nouveau. Donc il y a en nous cette mesure, cette capacité, non pas de faire les choses par nous-mêmes, mais cette capacité de dire, ok, je prends un pas en arrière, je fléchis le genou, j'accepte de reconnaître que lui sait, que moi je ne sais pas, j'accepte le travail que cela produit en moi, même si c'est un travail, et peut-être que c'est là aussi que ça peut faire ça peut être difficile, même si c'est un travail qui au final est douloureux pendant un temps. Et quand on est dans un moment difficile, un moment douloureux, le temps s'étire énormément. On peut être tellement, tellement, tellement découragé, on peut tellement ne pas en voir le bout. À ce moment-là, c'est juste, on peut lever les yeux à Christ, on peut trouver du secours auprès de lui, on peut se décharger. Peut-être que notre attitude, la façon dont on répond ne nous convient pas. Mais dans ce cas-là, on peut se décharger sur lui de nos soucis. On peut dire, bah, Seigneur, par la foi, j'accepte. Je sais que tu n'as pas peur de mes insuffisances. Je sais que tu n'es pas du tout effrayé par ce que je peux te dire, par mes réactions, etc. et je te fais confiance. Et je sais qu'en son temps, je verrai des choses. En son temps. Je sais que Dieu ne se trompe pas. Je sais que un jour, j'aurai peut-être jamais ici-bas, ça me fait penser, vous savez, aux héros de la foi qui ont cru aux promesses de Dieu. Ils les ont salués de loin. Et ensuite, ils ont été pris. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de leurs promesses ici-bas. Pourtant, on les cite dans Hébreux. Ce sont les héros de la foi. Et c'est un exemple. Nous, on a des promesses. On a reçu des promesses de Dieu. Il y a des choses qu'on va voir s'accomplir ici-bas. On va pouvoir vivre de toutes les promesses que Dieu nous fait. Ça va être apporter la paix, la restauration de notre âme. Et ensuite, l'accomplissement de toutes choses, que ce soit ici-bas, peut-être pas. Ce sera en tout cas en haut. Et en fait, un jour, on peut se dire ça aussi. Un jour, j'aurai cette consolation qui est parfaite. Je comprendrai parfaitement. Je comprendrai pourquoi Dieu a, entre guillemets, renié mes droits pour que lui fasse les choses. Mais en tout cas, ce sera pour un plan. Et à ce moment-là, quand j'aurai le plan qui sera devant moi, je pourrai dire, je sais qu'une fois arrivé là-haut, je dirai, mais Seigneur, mais merci, mais gloire à toi, mais combien tu as eu raison. Sauf que quand je suis en ce moment ici-bas, dans mon petit cadre temporel, ça peut être difficile à croire. Parce que c'est pas toujours tout rose, tout doux, tout sucré, tout facile. Au final, je sais que Dieu va faire les choses. Et c'était juste, oui, de s'encourager. En fait, quand ça va pas intérieurement, même peut-être pas extérieurement, mais quand je sens que ça va pas, je suis pas bien avec ce Seigneur, je lui en veux ou je suis pas contente, etc. Je peux vraiment tout lui apporter. Je peux accepter quoi qu'il se passe aujourd'hui. Je peux dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est dur, je peux te faire confiance. On peut tout dire à Dieu. Trouver le secours en lui. Trouver le secours aussi dans son caractère. Il nous le dit, je suis humble, je suis doux et humble de cœur. Donc, c'est parfait. Je peux me confier en lui. Plus qu'en n'importe qui d'autre, plus qu'en moi-même, plus qu'en mes pensées. Vous savez, quand je dis, ah, j'ai le droit de comprendre. J'ai le droit de savoir, j'ai le droit de comprendre ce qui se passe. Oui, mais moi, je suis limitée. Donc, je peux accepter de dire, je comprends pas tout, mais Seigneur, je te laisse faire les choses. Et je vais le vivre avec toi, en fait. Je vais le vivre avec toi, pas contre toi. Je vais pas être dans ce que tu veux pour moi, contre toi. On va le vivre tous les deux. Je vais apprendre. Parce que tout ça, c'est un apprentissage. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas un moment de guérison particulier où le ciel s'ouvre. C'est tous les jours. Pas après pas. Instant après instant. Souci après souci, souffrance après souffrance, incompréhension après incompréhension. Seigneur, je choisis de te faire confiance.